Un auteur que je ne connais pas a écrit la poésie suivante à propos de Moïse. Il est une vallée triste, solitaire, dont les portes s'ouvraient au seuil du désert. Peu s'en fut qu'elle devint la porte du bonheur, mais elle ne s'ouvrit point et fut porte des pleurs. Après tant de travaux, il languissait de voir pour ce peuple rebelle le pays de l'espoir. Mais avec colère, il frappa le rocher, alors qu'avec douceur, il aurait dû parler. Ainsi, plutôt qu'ouvrir la voie vers Canaan, s'ouvre alors en Moab la vallée du néant. Moïse, savais-tu qu'en frappant le rocher, tu frappais à nouveau ton sauveur bien-aimé? Cette poésie rappelle ce drame de l'Ancien Testament qui est la mort de Moïse. Et c'est probablement parmi les drames de l'Ancien Testament l'un des plus émouvants et des plus mystérieux à la fois. Mystérieux parce qu'en réalité, cette mort de Moïse était préparée. Dieu en avait informé Moïse. Et cette mort était comme un rendez-vous avec Dieu sur la montagne. De plus, seul Dieu était présent et a officié pour l'enterrement. Sa tombe est restée introuvable parce que Dieu lui-même l'a vidée. Et cependant, aucune indication ne nous était donnée qui puisse supposer que Moïse était au bout de ses forces, au contraire. Une mort curieuse, pour une petite faute, pour une petite chose, pour un rien du tout à la fin de sa vie. Et l'on pourrait se dire, mais enfin, est-ce que Dieu n'aurait pas pu fermer les yeux sur cette petite bricole à la fin de sa vie qui a terni son ministère? Fallait-il qu'il en meure avant de voir l'accomplissement de ce qu'il avait attendu. D'ailleurs, il était en pleine forme. Le texte nous dit, sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était pas passée. Dieu ne pouvait-il pas fermer les yeux sur cette petite chose juste à la fin? Les 120 ans de la vie de Moïse sont facilement divisibles en trois grandes parties, des cycles de 40 ans. Dans les 40 premières années, Moïse, dans son immaturité spirituelle, pensait qu'il était quelqu'un. En Égypte, il a pensé pouvoir lui-même, par ses forces, accomplir le plan qu'il savait que Dieu lui avait donné. Dans les 40 années suivantes, Moïse, dans son désarroi spirituel, a dû apprendre qu'il n'était rien. Il l'a appris en gardant des moutons dans le désert. Dans les 40 dernières années de sa vie, Moïse, dans son épanouissement spirituel, a appris que seul Dieu est tout. Et ce sont 40 années dans le désert de nouveau avec le peuple d'Israël. Et la Bible nous donne comme description de ce personnage ce texte que l'on trouve dans le livre des Nombres où il est dit « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » On a l'impression d'arriver à la fin de cette marche avec Dieu, d'arriver à un accomplissement, à une situation où Moïse, finalement, dans son contact avec Dieu, est si proche qu'il a atteint une sorte de sommet. D'ailleurs, il parlait directement avec Dieu. Mais alors, que s'est-il passé? Le texte biblique nous raconte que Moïse est arrivé avec le peuple à Kadès. Et dans cet endroit, il n'y avait pas d'eau. Alors le peuple, comme d'habitude, a murmuré, s'est révolté, était prêt à tuer Moïse s'il le fallait. Mais voilà 40 ans que Moïse supportait les murmures, les réprimandes, les révoltes de ces gens qu'il était allé chercher de la part de Dieu pour les amener dans la terre promise, où il n'avait pas voulu aller d'ailleurs. Lorsque les espions ont été rentrés avec ce rapport, ils étaient prêts à retourner en Égypte, préférant le régime de l'Égypte. Alors finalement, agacé, énervé, Moïse va aller demander à Dieu, « Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ces gens ?» Et Dieu va lui dire, « Va parler au rocher et il te donnera de l'eau. » Dans le passé, Dieu avait donné des instructions et Moïse avait dû frapper le rocher. Et l'eau en était sortie. Et cette fois-ci, Dieu va lui dire, « Va parler au rocher. » Et Moïse part, prend son bâton et frappe le rocher. Le texte dans le livre des Nombres nous rapporte ce qui s'est passé. Dans le livre des Nombres, au chapitre 20 et au verset 7. Dans le livre des Nombres, au chapitre 20, au verset 7, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » Juste une petite faute à la fin. On a l'impression que Moïse avait quand même, par ce parcours, obtenu la victoire sur ses faiblesses de jeunesse. Et puis tout d'un coup, on a l'impression qu'elles ressortent au moment inattendu. Sa vieille nature fait surface. Le problème, comme le texte nous fait le comprendre, c'est que Moïse a laissé supposer au peuple que c'est lui, par sa force, qui allait faire sortir l'eau du rocher. Et puis nous trouvons dans le livre du Deutéronome ce récit terriblement triste. À la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 34, il est dit au verset 1 « Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. » Un peu plus loin, au verset 5 « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Triste spectacle de voir Moïse qui monte, fort, vigoureux, à la rencontre de Dieu, sachant qu'il va fermer les yeux dans la mort. J'aimerais ce matin vous inviter à réfléchir avec moi sur la tombe introuvable de Moïse. Parce que cet événement me suggère plusieurs réflexions que j'aimerais partager avec vous. La première leçon que je reçois en réfléchissant sur cette tombe introuvable de Moïse, c'est que nous pouvons penser avoir obtenu la victoire sur nos faiblesses de caractère et être tout d'un coup surpris de les voir réapparaître. Nous pouvons penser que ce problème est résolu et voilà qu'il ressort. C'est peut-être simplement que l'ennemi n'a pas mis la tentation qui correspondait pour qu'elle apparaisse de nouveau, cette faiblesse. Parfois, nous sommes tentés aussi de dire le temps. Le temps va arranger les choses, mais nous n'avons aucune doctrine qui parle de la sanctification par la séniorité ou par la sénilité. Le temps, s'il arrange parfois certaines choses, ne va pas changer notre caractère. La seule puissance qui peut changer notre caractère, c'est la puissance de Dieu. Ainsi, je repense à ce passage que l'apôtre Paul écrivait dans l'Épître aux Corinthiens, où il faisait allusion justement au parcours du peuple d'Israël autrefois. Et il disait ainsi donc, « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » La deuxième réflexion qui me vient sur la tombe introuvable de Moïse, c'est que le péché, c'est le péché. Un homme du calibre de Moïse, est-ce que Dieu ne pouvait pas fermer les yeux? Est-ce que c'était vraiment un péché? Un si petit péché. Ne pouvait-il pas fermer les yeux? Petit ou grand, l'histoire de Moïse nous enseigne que le péché, c'est le péché, que le péché est une séparation avec Dieu. On pourrait imaginer dans un christianisme à bon marché que l'on peut entendre parfois aujourd'hui, que finalement c'était vraiment injuste que Dieu fasse mourir Moïse à cause de ça. On pourrait s'attendre que finalement, à côté de cette petite chose, la masse des bonnes choses qu'il ait faites, quand même, compense largement. Mais nous n'avons pas non plus une doctrine du salut par les œuvres. Ce n'est pas le kilo de bonnes œuvres que nous allons faire qui va compenser pour le péché que nous avons commis. Le péché, c'est le péché. Et la mort de Moïse à cause de sa colère est, je crois, un sermon éloquent sur la colère de Dieu contre le péché. La tombe de Moïse, comme la tombe vide d'ailleurs en dehors de Jérusalem, nous montre que le péché est toujours haïssable, toujours mortel, mais pas irrémédiable. La troisième leçon que je reçois en réfléchissant sur la tombe de Moïse, c'est que finalement, la tentation dans laquelle Moïse est tombé à ce moment-là est en réalité la même que celle dans laquelle il est tombé 80 ans plus tôt, lorsqu'il a tué l'Égyptien. Moïse pensait avoir la capacité, le pouvoir d'accomplir cette mission qu'il savait être la sienne. Il pensait pouvoir y arriver seul. Il a fallu 80 ans pour qu'il comprenne que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Et qu'il le comprenne aussi bien au point de pouvoir dire à Dieu, « Seigneur, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Et c'est ce que Dieu attendait après tout, qu'il le comprenne à ce point-là. Mais ici, tout d'un coup, revient cette tentation. On a parfois l'impression que le diable nous poursuit avec des tentations multiples, différentes. Mais regardez dans votre vie, en fait, ce sont toujours les mêmes. Regardez dans la vie de Jésus. Au début de son ministère, le diable va présenter à Jésus trois tentations, mais tout au travers de son ministère, ce seront constamment les mêmes qui vont revenir. Et dans notre vie, nous faisons la même expérience. Le diable sait quelles sont nos faiblesses. Et il va préparer les tentations toujours en fonction de ses faiblesses, parce qu'il cherche à nous faire tomber toujours dans la même. C'est terriblement frustrant de retomber toujours et toujours et toujours et toujours dans la même. Finalement, on se dit « j'y arriverai jamais ». Et le diable, en fait, se réjouit de mettre dans notre esprit cette idée que finalement, tu ne t'en sortiras pas, rien que ça fait que tu es esclave du péché. Ainsi, le diable sait faire ses tentations en fonction de nos faiblesses, en fonction de ce qui marche. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous nous connaissions nous-mêmes et que nous soyons capables de reconnaître nos faiblesses, de les donner à Dieu et de lui dire « Seigneur, sois ma force par ton esprit pour être vainqueur ». Une autre leçon que je reçois de la réflexion sur la tombe de Moïse, c'est que Moïse a frappé le rocher. Mais finalement, cette action résonne encore à la fin des temps, parce que c'était juste avant que le peuple ne rentre dans la Canaan terrestre. Mais nous, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation un peu semblable, car nous savons que dans peu de temps, nous rentrerons dans la Canaan céleste. Alors, l'apôtre Paul rappelait à ceux qui lisaient la première épître qu'il écrivait à l'église de Corinthe, qu'il fallait veiller sur soi-même. Et je vous propose de relire avec moi ce passage. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, fait allusion à ces événements et invite à la vigilance. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 10 et 11 disent ceci. « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, le danger est encore là. En fait, nous frappons nous aussi le rocher chaque fois que nous tombons dans le péché. Nos faiblesses, nos erreurs sont autant de coups que nous frappons de nouveau sur le rocher des siècles. Mais Jésus est mort une seule fois. Il est mort une seule fois pour nos péchés et en réalité, il n'est pas besoin de le frapper à nouveau parce que nous sommes invités maintenant à lui parler, à recevoir cette eau qu'il proposait à la Samaritaine, l'eau de la vie, et à recevoir le rafraîchissement qu'elle apporte. Frapper le rocher, c'est penser que nous pouvons nous-mêmes. Frapper le rocher, c'est penser que nous avons la force pour obéir et pour bien faire. Frapper le rocher, c'est cette propre suffisance de celui qui croit que, puisqu'il a bien fait, le peu de mal qu'il a fait ne compte plus. Frapper le rocher, c'est imaginer que Dieu fermera les yeux sur nos petits péchés parce que nous avons fait tellement de bien à part ça. Frapper le rocher, c'est imaginer que nous avons le ticket pour le royaume des cieux dans la poche et qui nous est garanti parce que nous faisons partie de l'Église, parce que nous faisons partie d'une certaine famille, parce qu'il y a tant d'années que nous sommes dans l'Église, et qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'être un chrétien victorieux pour être un chrétien prêt au retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons nous présenter devant la table de Sainte-Cène. Cette table de Sainte-Cène qui représente le sacrifice de Jésus, par lequel nous pouvons à nouveau recevoir le pardon dont nous avons besoin pour avoir frappé le rocher des siècles si souvent. Nous sommes invités à parler au rocher. Et c'est la leçon suivante, la cinquième, que je reçois en méditant sur cette tombe introuvable de Moïse. Parler au rocher. Qu'est-ce que ça veut dire, parler au rocher? Je pense que Jésus l'a exprimé dans l'Évangile de Luc au chapitre 21. Évangile de Luc, chapitre 21. Au verset 36, Jésus dit ceci. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veillez et priez. C'est ainsi que l'on parle au rocher, en lui donnant nos faiblesses. Finalement, c'est accepter la repentance. Dans le livre « Patriarches et prophètes », je trouve ce paragraphe intéressant concernant l'expérience de Moïse. En repassant dans son esprit les moments de son expérience de conducteur du peuple de Dieu, une action noircit cependant le tableau. Quand cette transgression sera effacée, il sait qu'il pourra affronter la mort en paix. Il sait que la repentance et la foi dans le sacrifice promis sont les seules choses que Dieu demande. Alors, à nouveau, Moïse confesse son péché et implore le pardon au nom de Jésus. Parler au rocher, c'est nous donner à lui en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois mon rocher. Je n'ai pas la force en moi-même. Et pour toutes les fois où je t'ai frappé, Seigneur, pardonne. » Dans le livre des Actes, les apôtres proposaient ce même programme à leurs contemporains lorsqu'ils disaient « Repentez-vous donc, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Finalement, parler au rocher, c'est dire ce que la Samaritaine avait dit à Jésus. « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. » La sixième leçon que je reçois en méditant sur la tombe introuvable de Moïse, c'est que lorsque Dieu dit non, c'est sans doute la meilleure réponse à donner. Finalement, que Dieu dise oui ou que Dieu dise non lorsque nous lui demandons quelque chose, n'est-ce pas une réponse de toute manière? Dans Deutéronome au chapitre 3, nous trouvons ce passage où Moïse va parler à Dieu. Un passage dramatique quand on y pense. Deutéronome chapitre 3, nous lirons à partir du verset 25. Moïse parle ici à Dieu. « Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il ne m'écouta point et l'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Je n'ai aucune difficulté à imaginer comment Moïse est venu plaider avec Dieu. Oh, il avait des arguments, il lui dit, « Seigneur, regarde les 40 ans que j'ai passés en Égypte. Regarde les 40 ans que j'ai passé à garder des moutons. Regarde les 40 ans que j'ai souffert avec ce peuple épouvantable. Laisse-moi entrer. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Et si grand qu'ait pu être Moïse aux yeux de Dieu, Dieu lui dit « Non, ne me parle plus de cette affaire. Non, c'est non. » Cette réponse a dû être difficile à recevoir pour Moïse. Après tous ses travaux, voir le pays promis lui échapper au dernier moment. Et Moïse n'a pas vraiment compris cette réponse, il l'a acceptée. Mais Moïse n'a jamais imaginé ce que Dieu avait en réserve pour lui. Jamais. Cependant, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour lui, comme il a un plan pour chacun d'entre nous. Et combien de fois Dieu nous a-t-il répondu non et nous n'avons pas compris? Il a peut-être fallu de nombreuses années pour que nous comprenions que le nom de Dieu était préférable à un oui dans certaines circonstances. Dans le même livre, Patriarche et Prophète, je lis cette phrase. Le Dieu du ciel connaissait ses souffrances. Il avait pris note de tous les actes de fidélité qui avaient caractérisé sa longue vie d'épreuves et de luttes. Au sommet du Pisga, il appela Moïse à un héritage infiniment plus glorieux que celui de la Canaan terrestre. Le texte nous rapporte que Dieu lui a permis de voir très loin ce pays promis, de le voir du sommet. Et puis, de cette vision géographique, il lui a donné une grande vision historique. Et Moïse a vu l'histoire de ce peuple dans ce pays. Histoire triste, histoire tumultueuse. Il a vu jusqu'au moment où le Sauveur est venu. Dans cet endroit-là même, dans ce pays, parmi ce peuple. Il a vu tout ce qu'on a fait subir au Sauveur du monde. Il a vu la croix. Il a vu la résurrection et le moment où Jésus est entré dans les parvis célestes, reçu par les anges et par son Père. Il a vu qu'il allait participer aussi à cet événement glorieux. Il a vu l'histoire du peuple de Dieu au travers des difficultés des temps suivants pour observer la parole de Dieu. Il a vu les persécutions. Il a vu ce panorama historique jusqu'au moment où Jésus va revenir une deuxième fois. Il a vu le salut de tous ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur. Et il a vu la fin de la grande controverse. Et Moïse s'est endormi là, au sommet du Pisga. Mais Dieu l'a ressuscité, Dieu lui a redonné la vie. Il avait encore un ministère à accomplir extraordinaire. Et nous découvrons la mission que Dieu avait en réserve pour Moïse lorsque nous lisons les évangiles. Où il va venir avec Élie, soutenir le Sauveur du monde à leur critique de son ministère. La septième leçon que je retiens dans mes réflexions sur cette tombe de Moïse, c'est précisément ce que le livre de Jude nous dit. C'est que le diable a voulu garder le corps de Moïse dans la mort, mais que Jésus est venu lui-même et qu'il a dit « L'Éternel te réprouve ». Jésus a fait acte d'autorité et ressuscité Moïse. Moïse n'aurait jamais pensé que le Seigneur allait le prendre là, maintenant, pour lui donner la réalisation de la promesse, là, tout de suite. Il n'aurait sans doute pas imploré le Seigneur pour lui demander de voir ce bon pays. Dieu lui préparait infiniment mieux, infiniment mieux. Ainsi, le Seigneur va ouvrir pour Moïse cette promesse de la vie et lui donner de voir tout de suite, non seulement la Canaan terrestre, mais la Canaan céleste, en attendant que tous les autres viennent le rejoindre, comme une prémisse de tous ceux qui devront passer par la mort et vivre la résurrection lorsque Jésus reviendra. Moïse appartenait à Dieu et Dieu l'a pris. Cette même promesse est encore valable pour tous ceux qui appartiennent au même Sauveur. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, se trouve cette phrase « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Autrement dit, le remède au péché, le remède à la mort se trouve dans celui qui a été frappé, dans le rocher des siècles qui a été frappé pour nous. Et nous avons aujourd'hui la possibilité d'être au bénéfice de son sacrifice et de sa promesse. Le mystère du tombeau introuvable, c'est la révélation d'un amour incroyable. C'est la révélation d'un amour de Dieu qui, au travers des hauts et des bas de notre vie, a un plan. Et dans la mesure où nous lui donnons notre vie entière, il accomplira pour nous ce plan de bonheur, ce plan de paix. Nous vivons, nous aussi, d'ailleurs, au seuil de la Canaan céleste. Et nous nous trouvons aujourd'hui encore en lutte avec nos faiblesses, nos vieilles faiblesses, avec nos erreurs et nos chutes. Et tout ce que nous semblons avoir traîné tout le long de notre vie et qui semble être encore là. Cependant, aujourd'hui, le Seigneur nous propose de ne plus frapper le rocher, mais de parler au rocher. Il est encore temps d'apprendre à parler au rocher. Il est encore temps de recevoir cette parole que Moïse lui-même, quelques instants avant de quitter le peuple et de monter sur le mont Nebo, cette parole qu'il va laisser et qui est en fait une parole d'espérance que nous avons encore aujourd'hui la possibilité d'apprendre dans notre vie quotidienne de chrétien. Une promesse extraordinaire qui se trouve dans le Deutéronome au chapitre 33 et au verset 27. Cette parole, j'aimerais vous la laisser aujourd'hui pour finir. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite.